Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mes lèzes tremblent, tremblent être noyés.
Le fumier n'est pas un saint, mais où il tombe, il fait miracle. Bienvenue dans ce cinquième épisode de la série « La clé des champs ». La série pour se nourrir de la magie du vivant, face à des climats de plus en plus extrêmes. De l'autre côté de la planète, ou à l'autre bout de la rue, l'humain observe et s'essaye à faire germer les graines. À chaque épisode, nous découvrons ensemble comment sont cultivées les terres de notre belle bleue. Aujourd'hui, nous faisons route vers le Pérou, pays du berceau originel, pour y rencontrer ses habitants à pattes, à tiges et à jambes, avant de bifurquer dans les champs pour choper quelques trucs et astuces de culture sous ce climat. En bonus, à la fin de cet épisode, je vous propose une recette en sortie de champ pour que nos papilles palpitent autant que nos oreilles. Nous approchons à peine les côtes du Pérou qu'un spectacle s'offre à nos yeux. Glissant sous la surface, un dauphin rose est venu caresser l'écume produite par notre embarcation. La côte pacifique est désormais visible et les cris des oiseaux attirés par la grosse quantité de poissons qui remontent vers le nord se réverbèrent sur les flots. Une fois que nous aurons quitté la côte, nous aurons peut-être la chance de planer avec le condor andin, oiseau charognard de 3 mètres d'envergure aux plumes argentées. Pour l'instant, c'est un coq des roches, la tête rouge bossue, qui nous fixe ardemment, installé sur une branche tordue de quena, un petit arbre rougeâtre. Si ce rouge surprend au premier abord, il demeure anodin à proximité d'un anaconda, un jaguar ou encore un ours à lunettes. Mais point de panique, le crachat tenace du lama, notre fidèle compagnon de route, est une arme très souvent sous-estimée. Le paysage péruvien est riche. D'un côté désertique, entrecoupé de vallées fertiles autour de rivières qui descendent de la Sierra, et de l'autre, à l'est, l'Amazonie, qui occupe près de 60% du pays. La biodiversité accompagnant chacune de ces régions est si vaste que nous pourrions passer un épisode complet à citer les 4200 espèces de papillons et autres merveilles. Déambuler dans un marché péruvien est une ode aux couleurs. L'ail, membre de la famille des poivrons, confère un arôme sucré à ces derniers. Son empreinte sur cette terre est bien plus importante que ce qu'il laisse apparaître. Il serait le premier aliment cultivé par l'humain d'après des restes trouvés dans des cavernes au Pérou. Les cavernes sont nombreuses dans ce pays occupé à 30% par un paysage montagneux dans une région appelée la Sierra. L'altitude des massifs montagneux, allant jusqu'à plus de 6000 mètres d'altitude, marque cette partie du territoire et compose le paysage de terres agricoles disséminées dans les vallées interandines. Ainsi, un déplacement de quelques kilomètres horizontaux peut signifier un changement d'altitude de plusieurs centaines de mètres. De cette façon, il est donc logique que chaque vallée ait œuvré à sa propre autonomie alimentaire. Pour qu'un niveau acceptable de sécurité alimentaire existe à l'intérieur de ces espaces, il est nécessaire de les utiliser au maximum, c'est-à-dire de maîtriser le plus possible la variable d'altitude. Avant la conquête espagnole, les populations andines occupaient le fond de la vallée pour cultiver les denrées adaptées au climat plus doux, puis se déplacer en altitude pour cultiver la pomme de terre dans les zones plus froides, puis encore plus haut, faisaient paître leurs troupeaux. Le déplacement d'un étage d'altitude à un autre, en changeant d'activité à chaque fois, s'accompagne de rites, de fêtes et autres activités culturelles associées à l'agriculture. Ce contrôle de l'espace vertical permet l'utilisation optimale des terres, du temps et de la main-d'œuvre. Les conquérants espagnols venant d'un pays avec un espace comparativement continu, avec un système de propriété individuelle, n'ont pas compris le fonctionnement de ce système péruvien. Ils ont obligé les Andins à constituer des villages au fond des vallées et empêché les déplacements en altitude, perturbant sérieusement la culture andine et son système agricole. Le Pérou dispose de plus de 8 millions d'hectares de terres fertiles pour ses quelques millions de kilomètres carrés. Il est le premier exportateur mondial de myrtilles, d'asperges, de bananes et de quinoa, et le deuxième exportateur mondial d'asperges, de café bio, d'avocats, via un système d'exploitation intensive basé sur le modèle occidental. Cependant, dans les espaces encore contrôlés par les communautés indigènes, le système traditionnel persiste de nos jours. C'est ce système qui nous intéresse dans l'épisode de la semaine. Êtes-vous prêts pour notre truc et astuce del campo ? Vous l'avez compris, plus on monte, plus les terres agricoles se font rares. Le climat devient rude et aléatoire, et la construction de terrasses agricoles et ouvrages d'irrigation plus difficile. Pour réduire le risque agricole, la paysannerie andine a développé une agriculture basée sur la diversité. Une recherche continuelle d'espèces et de variétés de plantes a eu lieu dans le milieu naturel, suivie d'une domestication laborieuse, puis d'une adaptation à différentes conditions écologiques. De cette façon, dans un petit terrain de 2 hectares, l'agriculteur plante plusieurs variétés de pommes de terre, chacune avec des propriétés différentes. L'une sera plus résistante au gel, l'autre à la sécheresse, l'autre aux parasites, et ainsi de suite. Si une ou deux des variétés sont anéanties, les autres persistent. De même, la culture traditionnelle utilise tout ce que nous serions tentés d'appeler déchets. Armée d'une poignée de guano, de déjections d'oiseaux, l'agricultrice andine remplira les trous creusés par l'agriculteur, avançant quelques mètres devant elle. Celui-ci creuse sur une dizaine de centimètres des petites cavités circulaires alignées. Après le guano, c'est au tour des graines. Un trou après l'autre, gravissant progressivement la montagne, les deux agriculteurs déposent une graine avant de refermer les cavités terreuses. L'agriculture est un métier pour vivre du vivant là-bas. Ceux qui cultivent observent sans cesse. À 3 heures du matin, l'agriculteur andin observera le cercle formé par les étoiles. Si les étoiles les plus brillantes arrivent en premier, il faudra avancer la date d'ensemencement. Et à l'inverse, si les étoiles brillantes sortent en dernier, il faudra retarder les semences. Les modes de culture au Pérou sont cependant encore peu adaptés à un phénomène climatique dont les impacts se révèlent de plus en plus importants sur les sols et le climat. En temps normal, le climat du Pérou est particulièrement contrasté. Tropical à l'est de la cordillère des Andes, mais aride sur la côte ouest en raison d'un courant océanique qui remonte la côte pacifique, bloquant ainsi l'évaporation et la formation de perturbations pluvieuses sur cette partie du pays. Ainsi, sur certains secteurs de la côte ouest, il peut ne pas pleuvoir durant plusieurs mois, voire plusieurs années. Toutefois, il arrive que des épisodes diluviens se produisent, lors d'épisodes d'un phénomène qu'on appelle El Niño. Tous les ans, entre Noël et le mois d'avril, un faible courant océanique côtier se met en effet en place près de l'Amérique centrale, apportant des eaux plus chaudes vers le sud. Par intervalles irréguliers, il arrive que ce courant se montre plus important et propage des eaux plus chaudes jusqu'aux côtes du Pérou, remplaçant les eaux froides pacifiques par des courants chauds et apportant une humidité plus importante sur cette partie du pays, normalement aride. Lors d'épisodes importants, de fortes précipitations se produisent donc sur ces régions, avec des conséquences parfois catastrophiques. Cette année 2023 voit la mise en place d'un phénomène El Niño, les eaux se montrant anormalement chaudes pour la période sur la côte ouest de l'Amérique du Sud. La mise en place de ce courant chaud entre l'Amérique de l'Ouest et le Pacifique provoque une modification de la direction des alizés sur ce secteur. Cela a des répercussions sur le climat mondial. soufflant d'habitude d'est en ouest. Ceux-ci inversent complètement leur direction durant le phénomène El Niño, apportant un air plus sec et un manque de précipitations, des sécheresses, entre l'Indonésie, les Philippines, l'Australie et la Nouvelle-Calédonie. À l'inverse, le centre du Pacifique et la Polynésie observent une augmentation de l'activité cyclonique, et donc des précipitations moyennes, précipitations qui s'étendent donc jusqu'au nord-ouest de l'Amérique du Sud. Ces régions ne sont pas les seules à subir les conséquences de ce phénomène. Celui-ci provoque également une accentuation du risque de sécheresse sur le nord-est du Brésil, le sud-ouest de l'Afrique, une accélération de la désertification au Sahel, un retard des moussons en Inde et une réduction du nombre de cyclones tropicaux. Du côté de l'Europe, ces conséquences sont plus limitées et encore mal comprises, bien que certaines études suggèrent que ce phénomène puisse apporter un temps plus régulièrement dépressionnaire et un climat plus doux, voire chaud. Si les cieux s'abattent sur cette planète, il n'en demeure pas moins essentiel de créer ce qui peut enchanter. Commençons par nos oreilles, voulez-vous ? Une petite pause musicale, aux côtés d'un groupe bien connu de la culture péruvienne s'impose. Les enfants du sol, Los Hijos del Sol de Carnito, nous appellent à traverser l'Atlantique.
Yeah.
La cumbia limeña, qui vient de titiller nos oreilles et peut-être d'animer nos corps, est un genre musical créé au Pérou, dans les années 60. Le mélange des esprits est une valeur chère au berceau originel. La causa reina, littéralement la cause farcie, est un plat issu de la guerre du Pacifique en 1879, lorsque le Chili était en lutte contre le Pérou et la Bolivie. L'armée péruvienne avait tellement de mal à se nourrir que les femmes collectaient les pommes de terre et d'autres aliments auprès de la population pour créer un repas qu'elles offraient aux soldats pour la cause. Ce plat est habituellement servi froid. Au Pérou, le pays qui produit plus de 2500 variétés de pommes de terre, la causa reina est habituellement préparée avec de la papa amarilla, une pomme de terre à la chair jaune vif, au goût de beurre, idéal pour la préparation de purée.
Voici la causa reina pour 4 personnes. Réunissez les ingrédients suivants. 1,5 kg de pommes de terre à purée à chair jaune, 3 citrons verts pressés, une gousse d'ail hachée, sel et poivre, 300 g de thon naturel, une cuillère à soupe d'huile d'olive, une échalote finement hachée, 10 feuilles de coriandre hachées, 2 avocats mûrs, 4 œufs mollets, une pointe de piment rouge ou tabasco, et pour finir en beauté, 2 cuillères à soupe de purée d'ail amarillo, un poivron jaune du Pérou. Commençons par les pommes de terre. Il nous les faut fermes mais cuites. Pendant 20 minutes, vous les ferez donc cuire. Aux 5 dernières minutes, ajoutez les œufs pour profiter de ce bain bulleux. Écaillez les œufs et écrasez vos pétillantes patates. Une purée ne serait rien sans un assaisonnement. Celui de ce plat allie jus de citron, huile, pâte d'ail et ail. N'oubliez pas de relever avec sel et poivre. La chaleur doit quitter cette purée pour mieux bénéficier de ses saveurs. Dans un autre récipient, délitez le thon avec une échalote en morceaux fins, de l'huile et les feuilles de coriandre. Transformez l'avocat en un écrasé souple agrémenté d'un peu de tabasco et de jus de citron. Vous pouvez désormais dresser cet assemblage de couleurs. Dans un petit bol, en son fond, déposez purée puis garniture de thon avant de caresser cette tour en devenir de la purée d'avocat. Recommencez ce manège avant de retourner le bol dans une assiette. Ce millefeuille de saveur fièrement monté pourra dès lors accueillir en son creux l'œuf décortiqué. Dégustez froid ces bouchées onctueuses qui annoncent une journée chantante et épicée.
Ce rond de jambes au berceau de la vie prend fin. La semaine prochaine, nous croisons la route d'un pays où les mots peinent à définir son humanité. Direction, la Syrie.
Alissandre, mes lèses tremblent, tremblent être noyées.